VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
Bonjour à Bamako, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique centrale. Le Cameroun a commencé ce vendredi à observer deux jours de deuil national à la mémoire des victimes du naufrage d'un navire de l'armée le 16 juillet. Dans le dernier bilan est de 11 morts et 23 disparus. À Douala, 11 cercueils ont été présentés lors d'une cérémonie d'hommage présidée par le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. Des cercueils contenant les dépouilles de 9 militaires, un policier et un civil, les corps des autres victimes de l'accident n'ayant pas encore été récupérés. Selon les autorités camerounaises, le naufrage a été causé par un déséquilibre couplé à une mauvaise météo. 3 personnes avaient pu être secourues. En RDC, le gouvernement renforce les mesures de restriction des mouvements des journalistes étrangers. JED, journaliste en danger, une organisation de défense de la presse, dénonce la décision et accuse les autorités congolaises de vouloir empêcher ces journalistes de faire leur travail, dit Sango.
Le ministre de la Communication, Lambert Mende, rappelle dans un arrêté que des lieux stratégiques sont interdits, des couvertures médiatiques. Les casernes militaires, installations de communication et ambassades ne peuvent être couverts que sur autorisation expresse des responsables de ces lieux. Il restreint aussi les déplacements des médias étrangers en dehors de la capitale ou d'une province à une autre. Pour ce faire, il faut une autorisation préalable. Pour JED, les gouvernements tentent de censurer les journalistes étrangers et restreindre leur liberté de mouvement pour les contrôler et les empêcher de faire leur travail. Pour le gouvernement de Kinshasa, c'est plutôt pour leur offrir des meilleures garanties de sécurité. Des experts onusiens ont été tués en mars dans le Kasaï, théâtre des violences entre les forces de sécurité et une milice locale. L'ONU a trouvé dans la zone une centaine de charniers.
Afrique de l'Ouest maintenant, Sénégal. Dimanche, la population sénégalaise est appelée aux urnes pour les élections législatives. 47 listes électorales sont proposées aux électeurs qui ont assisté à une campagne pleine de rebondissements. Quelles sont les coalitions possibles? Comment est perçu le retour sur la scène politique de l'ancien président Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall, toujours en prison? Pour analyse, et qui a besoin à Dakar, Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM.
Personne ne peut vous dire aujourd'hui qui va s'en sortir. Les Sénégalais, ils sont très versatiles. Personne ne connaît. C'est au soir du 30 juillet à 18h qu'on saura qui va sortir vainqueur de cette élection législative. Maintenant, il y a des coalitions qui sont supposées être dominantes. C'est la coalition au pouvoir de Mbokéyakar, c'est la coalition incarnée par l'ancien président Abdoulaye Wade, de coalition Manco Tahaou gagnante, c'est la coalition de Khalifa Sall. Il y a aussi des partis quelque part religieux dont on ne parle pas souvent, c'est le PUR, qui est un parti qui ressemble à Moussa Chedid au Sénégal, avec Sylvain Doukara au sein de son PVD. C'est des partis qui ont en général un électorat très fixe qui vote, mais est-ce que cet électorat le permettra de peser sur la balance? On attendra de voir. Mais les partis dans ces listes-là, aujourd'hui, on ne peut pas savoir exactement qui va s'en sortir, mais il y a 3 coalitions autour desquelles peut-être les résultats vont se faire. C'est la coalition pour le pouvoir de Mbokéyakar, c'est la coalition de l'ancien président Abdoulaye Wade, c'est la coalition incarnée par Khalifa Sall, le maire de Dakar, qui est en prison pour tout le monde.
Comment les Sénégalais perçoivent le retour de l'ancien président Wade à 91 ans?
Mais Abdoulaye Wade, les Sénégalais savent bien, Abdoulaye, cette bataille qu'il ne le fait pas pour lui, il se bat pour son fils Kari Wade. Abdoulaye Wade n'a jamais accepté que son fils Kari Wade, qu'il avait voulu nous imposer en 2012 comme dauphin, qui a été cherché, qui a été mis en prison pour tout le monde, qui avait l'arrestation de Ben Malaki, qui est candidat du Parti démocrate du Sénégalais, il est revenu, c'est Abdoulaye Wade, c'est un candidat par procuration pour son fils. À son âge, il a déjà dit, il ne cherche pas à l'Assemblée nationale, il a clairement dit, il ne cherche pas à devenir président de la République, il cherche quoi? Fondamentalement, son fils Karim est candidat pour la prochaine présidentielle, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font qu'il ne peut pas se présenter. Un, Karim Wade a été gracié, donc dispensé de peine, mais la peine pécuniaire reste, donc l'argent qui doit l'État de Sénégal reste, son casier judiciaire est entamé. Abdoulaye Wade voudrait peut-être avoir une majorité à l'Assemblée nationale pour voter une loi d'amnistie ici pour son fils et pour lui permettre d'amener à se présenter en 2019 à la présidentielle. Entre la volonté et le vouloir de Abdoulaye Wade et ce que les Sénégalais vont décider, ben, le 30 au soir, on saura ce qui va se passer.
Alassane Samba Diop, directeur de la radio RFM à Dakar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
On reste en Afrique de l'Ouest, au Mali. Le groupe d'autodéfense Touareg Imgadé allié Gatia a enregistré mercredi de lourdes pertes dans des violences près de Kidal, dans le nord-est du pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Ces affrontements ont opposé la coordination des mouvements de la Zawad, CMA, ex-rébellion à dominante Touareg, aux groupes armés pro-gouvernementaux, la Gatia. La CMA a affirmé avoir démantelé toutes les positions de la plateforme qui se formait autour de Kidal, soupçonnant les groupes pro-gouvernementaux de vouloir encercler cette ville sous son contrôle. Elle reconnaît deux pertes dans ses rangs et plusieurs blessés, tandis qu'elle revendique 50 morts et 39 prisonniers du côté Gatia. Un de ses responsables, qui a gardé l'anonymat, n'a pas fourni de bilan et n'a pas nié des pertes. La mission de l'ONU a perdu mercredi deux casques bleus allemands dans un accident d'hélicoptère pendant l'observation des combats. La Gatia et la CMA sont signataires de l'accord de paix mai-juin 2015, mais ces groupes armés ne facilitent pas l'installation de l'administration malienne à Kidal.
Mali toujours, un chroniqueur radio vedette contestataire malien, Mohamed Youssouf Batilidi Rasbas, a été condamné à 12 mois de prison pour incitation à la désobéissance des troupes. C'est ce qu'a annoncé jeudi un de ses avocats. La condamnation a été prononcée la veille alors qu'il se trouvait à l'étranger. Porte-parole du collectif pour la défense de la République, CDR, très populaire auprès d'une partie de la jeunesse, le chroniqueur est également un acteur important du mouvement d'opposition à la révision de la Constitution. Il mène actuellement une campagne contre ce projet auprès de la communauté malienne en Europe. Afrique australe, maintenant au Zimbabwe, la première dame Grace Mugabe a révélé hier qu'elle encouragerait son mari, le président Robert Mugabe, âgé de 93 ans et à la tête du pays depuis 1980, à choisir un dauphin pour lui succéder lorsqu'il quittera le pouvoir. Plus de détails avec Anastasie Tudiesh.
Grace Mugabe, 52 ans, a déclaré « Je me fâche avec lui, je lui dis toujours, tu as un rôle, tu dois dire qui va prendre ta place quand tu partiras ». La première dame, qui fait partie des favoris pour succéder à son époux, ajoute que la succession de Mugabe ne pourra se faire sans son engagement. Il a son mot à dire en tant que citoyen du pays. Le pays est très divisé sur l'identité du successeur de Robert Mugabe, qui n'a jamais pris position officiellement sur le sujet, mais son vice-président Emmerson Mnangagwa est régulièrement cité. La question n'est pas encore d'actualité, puisque Robert Mugabe, le plus vieux président en exercice de la planète, a décidé de se représenter aux élections de 2018.
Actualité américaine maintenant, les républicains minés par leurs dissensions internes ont à nouveau échoué ce vendredi à abroger l'Obamacare, la couverture santé de l'ex-président Barack Obama, adoptée en 2010, qui était leur cheval de bataille politique depuis maintenant 7 ans. Un sérieux revers donc pour le président Donald Trump. Lors d'un vote en pleine nuit, le Sénat a rejeté très tôt aujourd'hui par 51 voix contre 49 une abrogation partielle de l'Obamacare. On reste aux États-Unis, la présence des transgenres au sein des forces armées américaines fait débat, mais en dépit des tweets du président Donald Trump annonçant leur bannissement du secteur militaire, le plus haut gradé de l'armée américaine affirme que pour l'heure, rien n'a changé. Morgan Guiriec.
Le général Joe Dunford, chef d'état-major interarmes, a envoyé un mémo à ses subordonnés pour leur demander de ne rien changer en attendant que le président Trump informe formellement le Pentagone et que le ministre de la Défense, Jim Mattis, publie de nouvelles directives. En attendant, nous allons continuer à traiter tous nos personnels avec respect, écrit le général des Marines. En raison des combats que nous menons et des défis auxquels nous devons faire face, nous allons rester concentrés sur l'accomplissement des missions qui nous ont été assignées, souligne le général, laissant entendre qu'il perçoit les tweets présidentiels comme une diversion. Les transgenres sont des personnes qui ne s'identifient pas à leur sexe de naissance.
États-Unis toujours, Hillary Clinton, principal adversaire du président Donald Trump pour récente présidentielle américaine, va publier le 12 septembre les mémoires de sa défaite à l'élection. Les mémoires qui s'intituleront « Ce qui est arrivé ». C'est ce qu'a annoncé son éditeur jeudi. Revenant sur son échec, Hillary Clinton évoquera le sexisme subi en tant que première femme candidate de grand parti américain, et aussi une attaque sans précédent sur notre démocratie par un adversaire étranger, selon les documents publiés par la maison d'édition Simon & Schuster. Et pour terminer, personne ne devrait être obligé de voter dimanche au Venezuela. C'est ce qu'a estimé ce vendredi le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, en référence à l'élection prévue dimanche d'une assemblée constituante contestée, voulue par le président socialiste Nicolas Maduro. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.